mando el Guzmán y Casero de Natal. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, si Céline de Combati au personnage, je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Dans un communiqué signé dimanche 24 juillet par Étienne Tshisekedi, le Rassemblement des forces politiques et sociales de la RDC attise au changement, récuse Edem Kodjo, facilitateur du dialogue national. Il lui est reproché notamment de n'avoir pas respecté les consensus sur le groupe international de soutien aux facilitateurs qui devait se transformer en groupe de facilitation du dialogue. Entre-temps, la conférence épiscopale nationale du Congo plaide pour la tenue du dialogue d'ici la fin du mois d'août. Cette démarche est appuyée aussi par l'Église du Christ au Congo. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez nous rejoindre et nous appeler également au 081-890-6340 pour votre intervention en direct. Paul Badianiam est à la mise en onde, Pierrot et la Mégie à la réalisation et au standard de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Ndimbo sous la supervision de Martin Sebou-Jalvé. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Ndimbo.
Gabriel Ndikaï, dans votre message, vous dites que le facilitateur doit se rappeler que le dialogue étant vital pour le pays et que la qualité des participants est en jeu maintenant. Tout ce qui se précipite alors que les rassemblements attendent encore la suite à ces conditions sont des opportunistes. Certes, le gouvernement estime qu'il ne peut pas montrer qu'il accepte tout en libérant les prisonniers. Il faut que les MLC ou encore l'UNC amorcent la même démarche autrefois prise par Étienne Tshisekedi, en allant cette fois-ci vers le rassemblement pour le convaincre de gagner du temps. Patrick Mutombo, nous en avons vraiment marre de cette nation qui est comme si elle n'était pas la nôtre. La tenue des dialogues a été annoncée longtemps, mais jusqu'alors, rien n'est fait. Gabriel Saleh Bilungi de Kinshasa, tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires pour faire traîner les choses. Delphine Wabukabuka Shikai depuis Kananga, la manière dont les choses évoluent maintenant prouve que le dialogue, tant attendu par tous les Congolais, ne donnera pas naissance à un bébé que tout le monde attend. Chico de Kananga, vu maintenant la façon dont les choses se déroulent, je ne pense pas que ce dialogue peut nous apporter un bon résultat. Samy Divin de Chimanga, si Edem Kodjo ne parvient pas à convaincre toute opposition congolaise pour trouver un consensus sur les conditions et modes de déroulement d'un dialogue pacifique, qu'il sache que sa mission a échoué. J'ignore Mbopongo depuis Mbandaka. Je crois que pour l'opposition, le vrai problème du dialogue national n'est ni la facilitation, ni les facilitateurs, mais plutôt l'incertitude sur l'objet du dit dialogue. Certes, lorsque l'on considère le paradoxe phénoménal existant entre les dispositions constitutionnelles et les réalités contemporaines de notre pays, il s'y est explicité que la convocation du dialogue national est d'une irréfutabilité indubitable. Alex Kinyema Wabenga, vous êtes à Ouvira. Je suis tout à fait d'accord avec la démarche de la majorité présidentielle pour l'organisation du dialogue. Timothée Mukini à Kananga, quand on sent que la charge qu'on a transportée sur sa tête est insupportable, mieux vaut se débarrasser. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons dans ce studio professeur Félicien Kabamba, qui est chercheur au Centre d'études politiques de l'UNIKIN. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation que traverse, en tout cas, la vie politique de la RDC?
Merci de m'avoir associé à cette émission importante. Il faut reconnaître que l'impasse dans laquelle se trouve le processus électoral en RDC est à l'origine de plusieurs inquiétudes. Et là, on est en train de prévoir une crise. Et pour prévenir cette crise, l'idée du dialogue a été suggérée par l'opposition. Et pour que ces dialogues se tiennent, étant donné l'éloignement des positions des uns des autres, étant donné le grand fossé qui sépare aujourd'hui la majorité et l'opposition, étant donné qu'il n'y avait plus de passerelle de collaboration entre ces deux composantes, l'idée d'un médiateur a été évoquée. et le médiateur devaient donc jouer un rôle de rapprochement entre les deux parties. Un médiateur, c'est qui ? Médiateur, c'est une partie impartiale qui est extérieure à un conflit et qui cherche à établir la communication, à engager le dialogue, à trouver des solutions viables et encourager de quelque autre façon la résolution du conflit. Et donc, devant cette nécessité de trouver un médiateur, l'Union africaine a donc proposé la personne d'Eden Odion. Mais il faut déjà dire ici, ce qu'il faut préciser ici, c'est que dès la nomination de Edem Kodio par l'Union africaine, déjà l'opposition avait manifesté une sorte de réticence. Mais pourquoi la réticence de l'opposition? En fait, elle peut être interprétée de plusieurs manières. Il faut dire qu'en ce moment-là, Edem n'avait même pas commencé à travailler. Et on peut y voir deux ou trois choses. La première, c'est qu'en fait, l'Union africaine, dans la plupart des cas, ce n'est pas seulement en RDC, généralement considérée comme étant un club des dictateurs. Et donc, certains d'entre eux s'évertuent à pérenniser au pouvoir. Et donc, du coup, chaque fois qu'il y a une désignation, cette désignation est mal interprétée par d'autres partis. La deuxième raison, c'est qu'en fait, l'opposition a très vite établi une corrélation entre, si vous voulez, cette proximité entre Kinshasa et Pretoria, et comme vous savez qu'aujourd'hui l'Union africaine est dirigée par une Sud-Africaine, ils se sont dit, certainement, que cette nomination doit être un arrangement entre Kinshasa et Pretoria. Et du coup, il y a eu un rejet d'office de ces médiateurs.
Alors, d'entendre, monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez quand même nous faire une idée sur, de manière un peu fondamentale, quels sont les critères de choix d'une facilitation, par exemple, au cas d'une crise?
Bon, alors, il y a
plusieurs... En droit international ou en droit public?
Alors là, il y a plusieurs critères. Je crois qu'il y a d'abord la personnalité elle-même du médiateur, et quand vous regardez le médiateur, c'est quelqu'un qui, dans son pays, a occupé des positions importantes, et cette position lui a donné une certaine notoriété, au niveau tant national qu'international. Il y a son expérience, je crois qu'il a déjà été médiateur ailleurs dans d'autres conflits, mais il y a aussi la facilité qu'il a à communiquer avec les Congolais, et quand vous regardez, il est d'expression francophone. Et donc, il y a également plusieurs raisons autres que ceux qui l'ont désigné ont pu mettre sur la table. Mais il y a là, je crois, un certain nombre de critères qui ont milité en faveur de sa nomination.
Alors, quels sont les critères de réussite d'une facilitation, pour une facilitation?
Alors, là, c'est une question très, très importante. Une facilitation, pour qu'elle réussisse, elle doit commencer par faire une analyse succincte du contexte du conflit. Il faut arriver à faire une analyse distincte du conflit. Cette analyse devra déboucher sur, si vous voulez, des propositions concrètes. Deuxièmement, l'analyse devra porter sur les acteurs. Et quand vous regardez, suivez très bien Edem Kodjo, vous allez trouver que de temps en temps, quand il a eu à parler, il a livré quelques éléments de cette analyse qu'il a faite. Parce que l'analyse des acteurs permet de comprendre qui seront les principaux interlocuteurs du dialogue. Et là, lui-même disait qu'au niveau de la majorité, eh bien, la majorité répond à une autorité morale. Au niveau de l'opposition, étant donné la dispersion de partis politiques, étant donné leur nombre, et étant donné qu'il n'existe pas de primaire, il nous disait qu'il se référait aux élections qui ont été organisées en 2011. Et de ces élections, il est apparu que Kabila avait à faire comme principal adversaire était Tshisekedi, qui est venu juste après. Et même au niveau du Parlement, la deuxième force politique était l'UDPS. Et donc, partant de ça, de cette analyse du contexte et des acteurs, il en est arrivé à la conclusion qu'en fait, il faut, pour que ce dialogue réussisse, qu'on tienne compte de ces deux pôles importants, n'est-ce pas, qui cristallisent les forces politiques en RDC. il s'agit bien de la majorité autour de Joseph Kabila et de l'opposition autour des CNDP Tshisekedi. Alors, cette analyse qu'il a faite va lui permettre, allez lui permettre, si vous voulez, de bien avancer avec les pions.
Alors, tu te rends compte de l'évolution historique de notre pays par rapport d'ailleurs aux différentes assises organisées pour répondre à une crise qui se présente. On se rend compte que on est loin vraiment de se mettre d'accord ou de converger le point de vue des uns et des autres. Est-ce que nous ne craignons pas aujourd'hui par rapport au temps qui nous reste cette nouvelle rébuffade donc d'une frange de l'opposition ne risque-t-elle pas de retarder une fois encore les choses et aussi de mettre en porte-à-faux la même opposition?
Voilà. Alors là, maintenant, on en est à un point crucial. Point crucial parce qu'on on se rend compte qu'en fait, depuis que l'idée du dialogue avait été lancée, il y a plusieurs mois qui sont écoulés. Et le résultat, évidemment, on a des résultats qui tombent à contre-courant. Et on aurait voulu avoir un peu plus, étant donné que la date fatidique du 19 décembre, elle n'est pas très loin. Et donc, nous allons arriver à cette date sans que, véritablement, les Congolais ne soient pas. Et qu'on aille
déjà au mois de septembre avec la convocation de l'électorat.
Exactement. Et donc, nous risquons d'arriver à cette date importante sans qu'il y ait un schéma de sortie des crises. Alors que c'est du dialogue qu'on attendait le schéma.
Ah, c'est pourquoi le schéma de la sortie de la crise est proposé par la FENCO, qui demande ou qui plaide pour la tenue des dialogues avant la fin du mois d'août.
Absolument.
Ou d'ici à la fin du mois d'août.
Alors, il y a là deux choses. Il y a faire les choses rapidement, mais les faire bien. Il ne faut pas aller trop vite, parce qu'en allant trop vite, vous risquez de mal faire les choses, et donc de regretter d'avoir pris cette vitesse. Il faut mieux faire les choses. Et ça, c'est très important. Dans la plupart des cas, on se dit, mais le temps court, mais attention, vous risquez d'aller trop vite et de mal faire les choses.
Est-ce que ce qui divise aujourd'hui la majorité et l'opposition, est-ce que c'est le contenu du dialogue, ou bien c'est la constitution, c'est les respects des délais constitutionnels? Bon, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un flou, hein. Vous, en tant que chercheur, est-ce que vous pouvez nous éclairer aujourd'hui? Parce que nous avons suivi un auditeur qui a parlé, qui dit le vrai problème aujourd'hui, l'opposition n'est pas sûre du débat qui sera engagé au sein de ce dialogue. Et dans bien des cas, ils craignent d'être roulés dans la farine par la majorité. Est-ce que cette crainte se justifie?
Bon, alors, c'est là qu'il y a véritablement un fossé qui sépare l'opposition et la majorité. Le point de départ, c'est l'organisation de l'élection. Les élections, dit aujourd'hui la majorité, il n'est pas possible de les organiser dans le délai. Et sur cette question, l'opposition rebondit. Plusieurs hypothèses sont avancées. Les uns disent qu'il est possible de les organiser. Les autres disent, oui, on peut toujours décaler, mais il faut qu'on aille au dialogue. Et donc, du point de vue de la faisabilité des élections, eh bien, on a là, véritablement, un éloignement total des positions. Position de la majorité, position de...
Est-ce que c'est possible d'arrondir ces angles au sein du dialogue?
Alors, voilà pourquoi on s'est dit qu'il était possible que les acteurs politiques se parlent pour voir quelles sont les options possibles. Et le dialogue devait déboucher sur une option qui allait mettre tout le monde d'accord. On l'espère bien. Mais à partir du moment où, aujourd'hui, les dialogues semblent traîner pour être organisés, eh bien, il y a là une crainte à la fois qui est liée au temps et à la faisabilité du dialogue. Et là, il faut dire que la crainte de l'opposition, c'est que l'opposition trouve que, de l'autre côté, parce que vous avez dit que vous voulez la famille, eh bien, l'opposition s'est dit, eh bien, de l'autre côté, il y a un boulanger qui veut rouler tout le monde dans la famille, et nous n'acceptons pas de jouer au jeu du boulanger.
081-890-7315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Nous débattons, dans cette émission, le communiqué signé dimanche 24 juillet par Tshisekedi, le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales de la RDC, à titre de changement qui récuse Edem Kodjo, facilitateur du dialogue national. Entre-temps, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, plaide pour la tenue du dialogue d'ici la fin du mois d'août. Olivier, vous êtes à Guado, Kevin à Mbandaka et Clovis à Mbujimayi.
Parole aux auditeurs.
Olivier, merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Et merci beaucoup, monsieur Lier. Bonjour à vous et vraiment à l'invité.
Vous avez la parole. Après avoir suivi le contenu des messages qui nous ont été envoyés par certains des auditeurs et aussi l'intervention tout à l'heure de notre invité, alors quelle lecture faites-vous, quel commentaire faites-vous par rapport à cette actualité, le communiqué de Tshisekedi et d'autres membres du rassemblement et aussi la CENCO qui plaide d'ailleurs pour la tenue du dialogue d'ici la fin du mois d'août?
Oui, bon, par rapport à la thématique du jour, je trouve que c'est tout à fait logique, la communauté de Tshisekedi et son groupe. Puisque cela revient quand même à leur droit, étant parti dans un procès, de pouvoir réclamer quelque chose qui ne va pas. Mais à mon avis, l'inquiétude se trouve du côté du respect des délais de la Constitution. Puisque aujourd'hui, il y a un problème maintenant sur la crédibilisation de la personne de facilitateur et de son profil. Qui ça pose vraiment un problème dans la concrétisation, soit dans la résolution qui découlera de ces dialogues. Alors, ce qui est très important, c'est que nous voulons un dialogue qui va réunir le Congolais tout entier. Nous voulons que l'ensemble des Congolais puissent se mettre autour d'une table et discuter le problème qui est très majeur. Puisque si c'est seulement une partie des Congolais qui va à ces dialogues, nous allons trouver la guerre des causes, qu'il n'y aura pas tellement de bonnes choses. Puisque, dernièrement, nous avons même assisté...
Olivier, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une crise?
Si.
Alors, cette crise se situe à quel niveau, selon vous? C'est une crise politique, c'est une crise sociale, c'est une crise... Comment vous définissez? Quelle est la nature de cette crise, selon vous?
La nature de cette crise, selon moi, je pense que cette crise se trouve juste sur le profil et la personne de M. Ben Kodjo. C'est cette profil et sa personne qui fait ramener un peu la crainte du côté de l'opposition, qui pense à son avis et que M. Ben Kodjo est au solde de la majorité. Et il crée fort.
Oui, mais la résolution
de ces dialogues pourrait jouer un rôle.
Olivier.
C'est la raison pour laquelle, vu l'échéance de ce dialogue, moi j'aurais dû à proposer ceci. Mm-hmm. Si du côté c'est normal, nous devons, la communauté internationale, à l'occurrence l'Union africaine, doit au moins attendre les opposants, puisque si les opposants, une partie au procès conteste déjà la personne du médiateur, ça pose un problème quand on se réfère dernièrement à l'époque du fait Mobutu. Il y avait cette justice qui s'opposait entre le fait Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Quand Laurent Désiré Kabila a contesté la médiation de Blanc, il a voulu à ce que l'histoire de l'Afrique puisse être réglée par les Africains, comme il y avait déjà contestation du médiateur, et le Blanc s'est retiré pour qu'enfin M. Nelson Mandela puisse être le médiateur entre Désiré Kabila et Mobutu. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas tirer de midi à 14h, pour faciliter à ce que nous puissions gagner du temps. Moi, j'aurais souhaité mieux que la communauté internationale, en particulier l'Union africaine, puisse au moins nous chercher un autre médiateur, soit transformer ce panel de la communauté internationale pour la médiation, pour des médiateurs internationaux pouvant aider un peu à faciliter, à faire avancer les choses.
Oui, mais aujourd'hui, il y a une difficulté, Olivier, ce n'est pas l'ensemble de l'opposition qui récuse Eden Kodjo, nous avons vu, et selon une information, déjà l'UNC, MLC et tant d'autres partis de l'opposition ont déjà même fait allégeance au facilitateur pour lui présenter déjà la liste de membres qui vont participer au comité préparatoire. Donc, on peut dire, c'est une affaire qui ne concerne qu'une frange de l'opposition.
C'est la raison pour laquelle je dis nous n'avons pas besoin qu'une partie des Congolais puisse se mettre autour d'une table, puisque dernièrement nous avons eu la résolution des concertations. Quel a été le résultat de cette résolution? Il n'y avait rien au contraire. Et cette résolution, cette concertation avait découlé beaucoup de résolutions, mais jusqu'à présent, il n'y a pas l'applicabilité de cette résolution. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la majorité de ce n'était pas tout le Congolais qui était réunis autour d'une table. C'est la raison pour laquelle nous voulons essayer qu'il y ait la volonté personnelle de chaque Congolais puissent se réunir autour d'une table et puiser de leur poids pour pouvoir réellement prononcer une chose qui pourrait aller à l'avantage de tous les Congolais.
Merci beaucoup, Olivier, pour vous. En tout cas, vous plaidez pour un dialogue inclusif, hein, en partant donc avec cet exemple de concertation nationale qui, selon vous, n'était pas inclusive. Et voilà que, au fait, cela n'a pas donné le résultat escompté. Vous avez ramené dans l'histoire avec le conflit qui a existé, disons, à la fin 90, avec le fait Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Et l'histoire nous renseigne qu'à un certain moment, Laurent Désiré Kabila avait refusé la médiation internationale. Il avait proposé une médiation africaine et cela lui a été accordé. Donc, pour le cas de jurisprudence, vous demanderez que pour le cas d'espèce, que la communauté internationale, du reste, par le biais de l'Union africaine, puisse accepter aussi cette demande de l'opposition. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé de Guadeloupe. Kevin, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci. Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capri. Bonjour aussi à l'invité.
Quel est votre avis, Kevin?
Alors, moi, je pense que notre pays a depuis longtemps tombé dans une crise. La crise doit peut-être politique, mais ça peut être aussi sociale. La crise sociale, c'est la mesure où il y a aujourd'hui une rupture entre les intérêts des populations et les intérêts des politiques. Vous verrez que les politiques cherchent à arracher le pouvoir ou soit à conserver le pouvoir, alors que les intérêts fondamentaux des citoyens ne sont pas considérés. Ça s'en fait affronter une crise sociale énorme. Mais pour ce qui est de la question qui nous concerne aujourd'hui, je crois que c'est une crise politique qui se situe à plusieurs étapes. Notamment, il y a les cas de la question de l'organisation des élections dans les délais et aussi la question du contenu du dialogue. Mais moi, je crois que par rapport au contenu du dialogue, c'est là où il se pose des problèmes. Mais pour ce qui est, par exemple, de la forme, parce que le problème ne peut pas se poser au niveau de la forme du dialogue, qu'on récuse ou pas, le contenu va rester le même. On sait que le contenu, c'est l'organisation des élections. Tirer un large consensus pour qu'on puisse organiser les élections. Parce qu'il s'est aperçu que la question de l'organisation des élections dans les délais, c'est buté à un certain nombre de problèmes.
Oui, Kevin, nous sommes devant deux tableaux. La majorité présente les difficultés qu'a aujourd'hui la CENI de pouvoir organiser les élections. Et de l'autre côté, l'opposition tient au respect du délai constitutionnel, tout en privilégiant donc l'élection présidentielle et les élections législatives. Alors, c'est difficile aujourd'hui de converger ces points de vue. Est-ce que vous ne craignez pas, comme les autres, que cela puisse tirer les choses en longueur et que finalement on puisse avoir arrivé à la tenue de ce dialogue pas à temps voulu?
C'est justement la crise dont je fais allusion. C'est ça la crise. Certaines parties, une partie veut une chose et l'autre partie veut une autre chose. C'est pourquoi on s'est dit qu'on doit aller au dialogue. C'est pas la majorité qui présente les faits de telle sorte qu'il n'y aura plus d'élection des délais. C'est la CENI. La CENI, c'est l'organe technique. C'est à lui de nous dire s'il y aura possibilité d'organiser l'élection dans les délais ou pas. Mais elle nous a dit qu'il n'y aura pas moyen d'organiser les élections dans les délais. Nous sommes d'accord. Et on dit que pour avoir un consensus, pour que les choses puissent revenir à la normale, il faut aller au dialogue. Il faut aller au dialogue. Mais si maintenant on veut commencer à récuser quelqu'un qui est choisi par l'Union africaine et appuyé par une grande partie de la communauté internationale, c'est déjà un frein. C'est déjà un frein. On dit qu'il faut respecter la constitution, il ne faut pas aller au glissement, mais vous ne voyez pas que l'opposition elle-même commence à fabriquer un glissement. Je ne sais pas si l'opposition est en train de jouer le jeu de la majorité. On dit que l'opposition demande le respect de la constitution. Mais je me demande de quel droit elle se donne le privilège de récuser les facilitateurs. Où est-ce que c'est écrit que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec le facilitateur, alors que le facilitateur a été choisi par l'Union africaine.
Kevin, si nous reprenons juste le propos tout à l'heure du premier auditeur, Olivier Guadeloupe, qui nous a rappelé un peu l'histoire de notre pays en évoquant les cas Mobutu et Laurent Désiré Kabila. À un certain moment, Laurent avait même refusé la médiation internationale, en tout cas de l'Europe. Il a souhaité plutôt une intervention ou une médiation
africaine. Et cela lui a été accordé. Et tombant dans cette jurisprudence, pour Olivier, je crois que c'est possible en droit international. C'est comme en justice, quand on est dans un procès, on trouve que le juge tombe dans un délit de justice.
Vous savez, on pose le cas de jurisprudence lorsque nous sommes dans un même cas de figure. Aujourd'hui, ce n'est pas le même cas de figure avec le temps passé. Aujourd'hui, c'est la question du respect d'abord de la Constitution. L'idée, c'était d'abord de respecter la Constitution, mais comme il n'est plus possible de respecter la Constitution, c'est la raison pour laquelle on s'est entendu tous d'aller au dialogue. C'est juste pour ça, pour pallier à cette carence-là, à cette difficulté-là. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune contrainte. Aujourd'hui, il y a une contrainte, c'est les élections dans les délais. Mais comme les élections, dans ce rapport de toutes les élections dans les délais, c'est pourquoi il faut aller vite au dialogue. Parce que plus on tape, plus on va faire une large
discussion. Merci beaucoup. Il n'est plus possible de respecter la Constitution, ça c'est selon vous. Clovis, vous êtes à Mbujimayi. Est-ce que vous partagez cet avis, Clovis? Bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Ça va, merci. Je partage aussi cet avis. Mais il y a certainement un problème. À moi-même, je vais saluer la décision des facilitateurs et Eden Kodjo d'avoir pris la décision d'amorcer les activités de préparation des dialogues entre Congolais et bien avant l'heure. Parce que si on prend seulement l'habitude de renvoyer ça au demain, le lendemain, ça va. Et la délai qui nous reste, c'est un peu, on risque d'aller au-delà de ne pas tenir les dialogues dits selon le délai. Il y a un problème, c'est-à-dire, lequel, si le dialogue est voulu par tout le monde, parce qu'on croit que dans le dialogue, où sortira la bonne solution. La solution de quoi? Tous les Congolais veulent et qu'il ait la tendance au pouvoir, que notre président succède le président qui est actuellement en fonction de Joseph Kabila. Maintenant, comme le gouvernement n'a pas pu financer les élections depuis le mandat, le deuxième mandat de Joseph Kabila depuis 2011, nous avons dit que nous sommes seulement à la fin, et c'est jusqu'à la fin au risque de terminer, sans qu'il y ait un nouveau président qui succède de Joseph Kabila. Maintenant, il faut qu'on tienne les dialogues pour que tout puisse se réveiller dans le dialogue, l'opposition, la société civile, ainsi que la majorité politique, ensemble, nous débattons les problèmes politiques qui sont internes à notre pays. Notamment le problème
Il y a quelques mois, enfin, il y a un mois, et tout au plus, on a vu le rassemblement accepter à l'unanimité d'aller au dialogue. Est-ce que cette rébifade ne vous donne pas l'occasion d'avoir un peu quelques inquiétudes?
C'est normal, c'est normal. Il peut accepter ce qu'il a accepté aussi longtemps que l'UDPS aujourd'hui a tenu aussi à donner ses obligations, ses conditions, parce que c'est impossible que le dialogue s'éteigne. Au moment où les autres Congolais, nous voulons avoir la paix, et donc nous voulons que la paix règne au pays, dans tous les animateurs politiques, aussi longtemps que les autres Congolais et sont en point. Donc, au lieu de ça, au lieu d'aller au dialogue, parce que nous voulons chercher la paix, il faut que tout le monde soit libéré, alors on aura à bien causer et traiter les gens qui nous ont fait.
Merci beaucoup, Clovis. Alors, on va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour à l'invité et à tous les invités de Radio.
Alors, on a suivi Olivier, Kevin ainsi que Clovis. Olivier évoquait le cas Mobutu, Laurent Désiré Kabila, au moment où Laurent Désiré Kabila n'avait pas l'assurance sur la médiation qu'on proposait à la communauté internationale, avait exigé une médiation à l'africaine. Et cela lui a été accordé. Alors, par rapport à cette jurisprudence, Kevin, Olivier a proposé qu'on puisse normalement écoutez également l'opposition qui réclame ou qui récuse Edem Kodjo aujourd'hui. Mais entre-temps, il y a la CENCO qui demande à ce que par rapport au temps, on puisse aller vite au dialogue d'ici la fin du mois à août, soutenu d'ailleurs par l'Église du Christ au Congo. Et Kevin qui est intervenu, il a même évoqué le cas de la crise aujourd'hui, et le fait qu'il n'est plus possible de respecter la Constitution, voilà ce qui justifie la raison, la tenue de ce dialogue. Il est également appuyé par Clovis de Mbujimayi. Alors, quel est votre avis, Félicien?
Moi, je veux dire que les facilitateurs doivent maîtriser, doivent connaître le terrain sur lequel ils travaillent, sinon ils commettront beaucoup d'erreurs. Parce que s'ils ne comprennent pas que cette crise est une vieille crise qui est née des élections de 2011, et s'ils ne comprennent pas que par le passé, il y a eu déjà beaucoup de crises, hein, comment ça a été résolu depuis Mobutu. Et s'il ne connaît pas le comportement de la classe politique congolaise, il va tomber dans les pièges, il va regretter d'avoir fait un séjour inutile au Congo. Moi, je pense que tout le monde devrait comprendre qu'aujourd'hui, et l'opposition et la majorité, ils ont travaillé pour qu'il n'y ait pas d'élection. Ils nous ont conduit lentement mais sûrement jusqu'à arriver à cette date pour qu'il n'y ait pas d'élection. Et tout le monde devrait voir aussi que la transition est en train de se dessiner. Aujourd'hui, on prépare la transition. Mais comment on doit faire cette transition? C'est ça la question. Vous verrez que, comme dans les habitudes de la médiocrité de notre classe politique, ceux qui criaient, non, pas question de dialogue, on va aller aux élections, ils sont les premiers aujourd'hui à aller déposer les listes chez les facilitateurs. Et les autres sont en train de réclamer, ah non, des conditions, il faut libérer les prisonniers politiques. Mais là, ils disent, non, si nous souvent la même voix, nous allons rater les biftecs parce qu'on fait la politique du ventre dans notre pays. Et tous ces gens-là, l'opposition qui crie là, c'est l'argent, c'est l'intérêt personnel. Alors, qu'on comprenne aujourd'hui que Joseph Kabila a compris qu'il faut tendre la main à la vraie opposition. On est parti à San Sisi. Il était encore jeune. Il n'avait pas encore la maturité, il n'avait pas encore l'expérience. Il a réussi à réunir un pays morcelé par des rébellions. Et on appelait 1 plus 4. Mais 1 plus 4 a fonctionné. Aujourd'hui, on retombe dans une crise. Il a compris que tout ce qu'on lui présentait, c'était des faux opposants. Et si aujourd'hui on veut sauver le pays, il faut tendre la main à Tshisekedi. Et c'est comme ça qu'il tend la main à Tshisekedi et qu'il obéit à concéder tout ce qu'on lui demande. Mais il y a des faucons, en l'opposition, il y a des faucons en la majorité qui empêchent que vraiment ça puisse aller dans le bon sens. De ce côté, nous dire non, il ne faut pas faire sortir Christopher Ngo, il ne faut pas sortir Dongala, il ne faut pas sortir et celui-ci. Mais lui, personnellement, il a quel problème avec ces gens-là? Et s'il sortait, il représente quoi? Parce que les vrais opposants de Tshisekedi, et il a tendu la main à Tshisekedi. C'est là, s'il sortait, ça lui fait quoi? Ce sont les faucons. C'est là qu'ils font la politique du ventre. C'est là qu'ils ont amené Mobutu là où il est arrivé. Et du côté de l'opposition, c'est qui? Non, Tshisekedi, il a vieilli, il a mis les gens dans des situations. Non, il a eu l'argent, tout ça. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de passer devant pour aller. Alors, si nous suivons cette voie-là, on ne va pas réussir. Aujourd'hui, disons que le peuple attend le mariage entre Tshisekedi et Kabila pour qu'il prépare une transition qui va nous amener aux vraies élections, qui va plus nous amener dans des crises. Et moi, j'ajoute qu'il y a aussi la commission d'unité et de réconciliation. Parce que tous ces gens qui crient, moi, opposant, tous ces gens qui sont à la majorité, qui sont grands privilèges, tous ont travaillé dans le pays à un poste donné d'une manière ou d'une autre. Qui s'explique?
Merci beaucoup, Félicien. Alors, nous retenons une chose. Kevin a dit il n'est plus possible de respecter la Constitution. Vous vous proposez une transition qui se dessine, selon vous, qui pourrait être dirigée par Kabila et Tshisekedi, parce que les deux c'est font partie de ce problème, de cette crise qui a été de 2011, selon vous. Merci beaucoup, Félicien. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous venons de suivre cette série des auditeurs avec Olivier, Kevin, Clovis, Félicien. On retient une chose, professeur Félicien Kabamba, que les avis sont vraiment partagés. Il y a Olivier qui évoque un cas de jurisprudence en disant que Laurent Désiré Kabila, ne se sentant pas à l'aise avec une médiation internationale, avait exigé à son temps la médiation à l'africaine, et cela lui a été accordé. Nous avons vu Mandela avec Outenika 1 ou Outenika 2, nous avons vu le président Sassou s'impliquer, Lissouba, voilà, dans cette médiation du conflit à RDC. Aujourd'hui, selon Olivier, c'est aussi possible
Parce qu'en droit international, les opposants qui trouvent, et qui font partie d'ailleurs du problème, peuvent aussi récuser un facilitateur de leur qu'il se trouve vraiment pas satisfait par rapport à la à l'expertise, comme vous l'avez dit, à la personnalité ou encore la façon de communiquer de la personne. Il y a Kevin qui dit il n'est plus possible de respecter la Constitution, et pour boucler la boucle, Félicien vient dire il y a déjà une transition qui se dessine. Allons directement à la transition avec Kabila, c'est ce qu'il dit.
Bien. Disons que parlant d'abord de la question de la récusation du médiateur, un médiateur par définition, c'est une partie neutre qui vient s'interposer entre les différentes parties au conflit et essaye de chercher à établir la communication entre elles et aussi les engage dans un dialogue destiné à trouver des solutions viables. Alors, à partir du moment où l'une des parties que le médiateur devra engager dans la communication et dans le dialogue recuse le médiateur, ça devient quand même très difficile pour le médiateur de faire ce travail-là. Ailleurs, ce n'est pas seulement au musée Laurent Désiré Kabila, ailleurs en Afrique, on peut parler du cas de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, on a vu que les médiateurs ont été aussi récusés. Et quand le médiateur est récusé, ça pose quand même un sérieux problème, parce que ça va retarder le processus, mais on peut aussi avoir plusieurs récusations, et finalement, on va faire un cercle vicieux et on n'aura pas avancé. Je dois vous dire que la récusation d'Edem Kodjo, aujourd'hui on en parle parce que c'est le président de l'UDPS, mais déjà avant l'UDPS, il y a
Sylvie Caï et puis Bitakura
qui sont membres de l'opposition et qui avaient déjà également recusé donc le médiateur. Tout le problème qui est là, c'est de dire oui, il y a là un problème autour de la démarche du médiateur. Apparemment, la démarche proposée par le médiateur pose problème et ne semble pas faire consensus au niveau de toutes les parties présentes. Mais est-ce qu'on peut récuser bon, il faut d'abord répondre à cette question de risque. On peut récuser et obtenir qu'il y ait un autre médiateur. Parce que la médiation, pour qu'elle ait son sens, il faut avoir une personne qui est de nature à engager l'ensemble des parties prenantes à se mettre d'accord, à dialoguer.
Mais quelle est la démarche? Parce que nous nous retrouvons dans une situation vraiment confuse. C'est le chef de l'État qui avait convoqué le dialogue, et nous supposons que c'est le chef de l'État qui en a fait la demande auprès de l'Union africaine pour que l'Union africaine trouve un médiateur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que quand l'opposition récuse, l'opposition a-t-elle le droit d'écrire directement à l'Union africaine et aussi à la communauté internationale pour dire, voilà, nous ne voulons pas votre dialogue, organisez-le comme vous le voulez, sans nous.
Mais je n'aime pas entrer dans la polémique du genre qui a convoqué le dialogue et autres, c'est que là-dessus, entre opposition,
il y a un danger, voilà.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a l'Union africaine qui a désigné le médiateur. Et apparemment, c'est donc l'UDPS.
Donc pour l'information des auditeurs, juste après la convocation par une ordonnance, du chef de l'État, l'Union africaine a directement réagi en désignant le facilitateur.
Voilà, et donc, comme ce n'est pas un médiateur désigné par le chef de l'État, par l'Union africaine, on s'adresse de nouveau à l'Union africaine. Et le problème, c'est de dire, il y a déjà un chemin parcouru par le médiateur, est-ce que faut-il le faire partir, ou il faut lui adjoindre un certain nombre? C'est qu'eux-mêmes appellent le panel. Est-ce qu'il faut lui adjoindre? Parce qu'on a vu, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, ce n'était pas un seul médiateur, il y en avait 5. Et sur les 5, un a été récusé. Qui s'est retiré? Vous comprenez? Et donc, dans ce cas-là, étant donné qu'il y a des suspicions, est-ce qu'on va adjoindre à Edem Kodjo un certain nombre d'autres candidats pour essayer d'apaiser la tension? Et là, il faut dire que tout reste possible.
Mais oui, parce que c'est là. Si nous regardons par exemple le cas de la Palestine aujourd'hui, avec des médiateurs qui démissionnent à tout moment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment loin de trouver une solution définitive et une solution durable. Le fait de récuser, et ça a quand même un impact négatif sur la solution qu'on recherche.
Voilà, mais le droit de récuser, c'est il ne faut pas non plus le refuser à qui que ce soit, parce que comme on l'a dit, si aujourd'hui c'est l'opposition, étant donné qu'elle se sent, elle ne se sent, semble pas se sentir à l'aise, pas du tout l'opposition d'une partie, demain ça pourra être une autre partie, ça peut être la majorité, peut-être que c'est la société civile. Bah, alors, il y a là une façon de, moi je crois, que la meilleure manière de s'en sortir, c'est aussi d'envisager une prise d'élan entre l'opposition et donc le rassemblement et Eden Kodjo. Je crois qu'il est possible qu'ils se mettent sur la table et qu'ils voient qu'est-ce qui choque l'opposition, qu'est-ce qui énerve l'opposition. Et est-ce qu'il y a moyen de
résoudre de retrouver la,
mais quand vous entrez dans le fond, vous trouvez que au-delà de la question de libération de prisonniers politiques, il y a également la question de la méthodologie même de donc des étapes de la médiation.
Le nombre de participants,
voilà,
le...
Toutes ces questions, parce qu'en fait, il y a là une question qui est posée. Oui, le rassemblement va venir, mais est-ce que nous venons là où les choses se trouvent déjà ou nous recommençons les choses?
Voilà. Merci. Et on va retrouver à nouveau le standard avec le Cyril qui est à Kananga, Philippe Goma et Maurice à Kinshasa. Cyril, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre avis, Cyril?
Moi, je voulais seulement intervenir seulement dans le même sujet, en tenant compte de la manière où nous avons suivi les explications du professeur sur place, là, sur le plateau, et plus surtout qui nous a bien clarifié. Et nous voyons et nous comprenons directement que si l'UDPS avec ses alliés commence à réfuter, à rejeter, à récuser les médiateurs, c'est parce que c'est l'émanation de la résonance des dictateurs africains qui cherchent par tous les moyens à maintenir leurs frères et à se maintenir au pouvoir. Maintenant que nous suivons que c'est là qui fait que ces choses soient bloquées, nous devons aussi se référer qu'en République démocratique du Congo, pourquoi nous devons se poser certaines questions. Pourquoi il y a maintenant la réclamation du dialogue? Et pourquoi et qui a commencé à poser les problèmes de ce dialogue? Et à partir de cela, nous pouvons voir que directement, si le facilitateur est normalement facilitateur, il fallait qu'il fasse pas en arrière pour ensuite chercher à appeler le groupe de Tshisekedi pour aussi le mettre dans la chose. Sinon, ça sera un chaos. Dans le sens où, s'il n'est pas, si vous avez par exemple sa déclaration de ce matin aujourd'hui, il a dit quoi? Je suis soutenu par l'Union africaine. C'est qu'alors il voit que les Congolais et l'opposition n'existent pas. Le fait d'être soutenu par l'Union africaine, sans toutefois tenir compte de la réalité sur place, cela nous montre la réalité qu'il est sous la résonance de ce même dictateur. Alors, nous le demandons, si nous référons encore à ce que l'Église catholique a dit, et puis surtout l'homme de l'Union pour la Nation a parlé hier la nuit là, il a dit quoi? La déclaration de l'UDPS et ses alliés, c'est une déclaration politique. Qu'est-ce qui empêche à ses facilitateurs de rapprocher l'UDPS pour mieux lui attendre, tout en reconnaissant que si ce dialogue est conduit et est recommandé, c'est parce que Tshisekedi qui l'avait recommandé la première, le premier plutôt. Et si ce dialogue est recommandé, c'est parce qu'il y a eu élection de 2011, d'où Tshisekedi était sorti.
Oui, Cyril, est-ce que vous pensez comme les autres dialogues avec ou sans Tshisekedi? C'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Sinon, il n'y a même pas nécessité de tenir ce dialogue. Ça, c'est ce qu'il dit. S'il n'y a pas ce qu'il dit, il n'y a pas de question de dialogue. Parce que tous ces gens-là, tu se disent, oui, bien sûr, ce sont nos confrères, ce sont des opposants, ce sont des politiciens. Nous ne sommes pas comme eux. Et ils se rapprochent de cela, c'est pour tout simplement comme l'autre vient de dire avant moi, pour chercher les gâteaux, l'emplacement, la juxtaposition politique. Or, que celui que nous connaissons en République démocratique du Congo, pour le moment, à tenir compte des élections 2011, c'est tout ce qu'il dit.
Alors, vous ne craignez pas comme les autres civils que cette rébifade puisse encore retarder les choses, parce que Eden Kodjo annonce la mise en place, en tout cas, du comité préparatoire d'ici la fin de la semaine, pour que finalement les travaux puissent déjà s'ouvrir avant de la tenue effective de ces dialogues. Alors vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec ces comportements d'une partie de l'opposition, ça risque de retarder encore les choses inutilement, ou encore que nous puissions nous tomber dans cette politique de chaises vides?
Non, le retard a été déjà provoqué par le gouvernement, vous voulez bien connaître. Depuis quand il y a des dialogues a été demandé? Depuis quand, comment on prépare les élections dans un pays? Ils ont gagné en 2006, ils ont gagné en 2011, pendant tout ce temps. En 2006, on a fait les élections concrètement. Mais pourquoi pas faire en 2011? Et voilà que cette histoire a été vraiment entretenue sciemment par ce groupe de l'autre côté.
Merci.
Maintenant, si vous voulez dire qu'il faut peut-être, si c'était des acteurs transversés, ça va toujours. Nous sommes déjà en retard. Le faire ou pas, c'est déjà un retard consommé.
Non, non, mais pour la tête de la
province, les autres,
pour la tête de
vraiment tenir.
Oui, pour la fin de compte, c'est encore possible hein, de récupérer les choses d'ici la fin du mois d'août, parce que l'électorat, ça doit être convoqué au mois de septembre, donc le dialogue, s'il se tient avant le mois de septembre, nous sommes encore dans les temps.
Non, papa, si vous voulez retenir cela, c'est faux. La chose a été bien entretenue il y a longtemps. Ce qui fait pour le moment, il est impérial et nécessaire de convoquer ce dialogue, c'est-à-dire à Kodjo, de rapprocher Tshisekedi avec ce groupe pour tenir. C'est pas cela, c'est le chaos. On veut que le sang coule. L'Église catholique est soutenue.
Voilà, on verra. Merci beaucoup, Cyril, pour vos propos. Mais je crois que nous ne sommes pas de prophètes de malheur. Le souci pour nous, c'est la cohésion à l'interne. La raison pour laquelle on fait ce genre d'échanges citoyens, de manière à pouvoir aider le pays à aller, en tout cas, vers son idéal. Cyril, merci. Je vous rappelle de Kananga. Philippe, vous êtes à Goma. Bonjour.
Bonjour, Gère. Bonjour, cher auditeur de la radio Capi. Monsieur Gère, j'aimerais juste vous donner quelques éclaircissements par rapport à des thématiques. Gère, j'aimerais un peu recadrer les choses pour donner des solutions à notre facilitateur Eden Kodjo. Gère, d'abord, Eden Kodjo est venu au Congo sur demande de l'opposition qui voulait justement un facilitateur international. Si aujourd'hui il y a manque de confiance, il serait mieux de demander à l'opposition qui refuse de venir dans quoi s'ajoute le prix qui peut encore aider Eden Kodjo à devenir facilitateur. C'est pour cela que quand nous demander la question à l'opposant ou à l'opposition qui répond là, c'est dire voulez-vous que nous puissions augmenter tout qui peut encore donner confiance dans votre scène à si vous pouvez rejoindre les dialogues. Parce que le dialogue est un processus inévitable pour que nous puissions donner à un terme que moi je vais dire la convention démocratique à l'AFD. Nous devons nous donner une convention démocratique en ce terme du dialogue pour que nous puissions déboucher aux vrais problèmes que la République démocratique du Congo est en train de se plonger. Je voudrais encore dire ceci, si du moins les panels ont été déjà prononcés par l'UDPS, c'est le même UDPS qui a donné exigence qu'il puisse avoir le panel. Qui du moins les uns les autres se jette l'éponge et juste à donner aussi au facilitateur Eden Kodjo. Voulez-vous comprendre le jour où Kodjo était à Bruxelles, à la rencontre avec le colloque de il n'avait pas donné son point de vue, ou du moins, on devrait encore amener un sous-groupe de facilitateurs qui vont encore continuer à aller négocier avec Tshisekedi en question. Mais néanmoins, quand on a commencé le travail, c'est possible à la fin du mois. Voilà ce que moi je suis en train de penser sur ce qui concerne la problématique en République démocratique du Congo, qu'on devrait donner une autre connotation en disant convention démocratique en RDR.
Merci beaucoup, Philippe, d'avoir appelé. On va prendre Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour et bienvenue.
Et bonjour, Jean-Louis Mogesano, c'est le professeur qui est avec vous sur le plateau de Radio Capi.
Voilà, vous avez suivi le professeur qui a évoqué d'entrée de jeu les critères de choix d'une facilitation ou d'un facilitateur et toujours des fils à aiguille. Nous avons évoqué également les critères de réussite d'une bonne facilitation qui passe par certains éléments et des éléments qui sont du reste très importants, la personnalité, l'expertise et puis la facilité de communiquer. Alors à ce jour,
au regard de cette récusation de Dem Kodjo, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelques éléments qui manquent autour de ces critères de réussite, si pas la personnalité, si pas l'expérience, encore moins la façon de communiquer de Dem Kodjo qui pose problème aujourd'hui?
Écoutez, JR, permettez-moi d'abord de faire, peut-être pour rafraîchir votre mémoire, vous savez, le dialogue ici, à son étape, en fait, de Ibiza et Venise, il a été convenu entre les deux parties qu'on devrait d'abord procéder à la libération de prisonniers politiques. Et c'était acté. Donc, toutes les deux parties étaient d'accord sur ce point. Et vous avez compris que ce qui avait bloqué les pourparlers de Ibiza et de Venise, c'était juste lorsque le régime proposait un gouvernement de transition auquel il convient, en fait, l'UDP à participer. Donc là, je voudrais d'abord réfléchir pour comprendre là où l'origine, en fait, de ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui. À la deuxième étape, aujourd'hui, ce qui nous concerne, pour ne pas vous prendre beaucoup de minutes, dernièrement à Bruxelles, entre le facilitateur Dem Kodjo et le groupe de soutien à la facilitation et le rassemblement, il a été convenu lors de la dernière rencontre à Bruxelles que le groupe de soutien à la facilitation devait se transformer ou se muer en groupe de facilitation. De cet effet, on avait demandé qu'il n'y avait plus, donc on n'avait plus besoin de constituer un comité préparatoire. C'est-à-dire que le groupe de facilitation devrait faire l'objet, en fait, de ce comité préparatoire. Alors, on n'avait pas besoin, en fait, de constituer une autre équipe pour le comité préparatoire. Et de deux, il a été convenu toujours, lors de cette réunion, qu'on devait procéder à la libération de certains membres de l'opposition et de la société civile, notamment Christopher Gouveil. Alors, voilà, convenu, M. Kodjo qui revient au pays, il va amorcer une démarche de manière unilatérale sans respecter
oui, Maurice,
le point
oui, Maurice,
de convergence,
Maurice,
de convergence
oui, Maurice,
sur lequel la société est tombée oui, à Bruxelles.
Oui, Maurice. Oui, Maurice, c'est juste une question de précision. Nous avons tous suivi l'actualité avec les assises de Genval. Cela a été coulé sous forme de recommandations par un acte d'engagement des uns et des autres. Est-ce que la rencontre entre le comité des stages du rassemblement avec les facilitateurs en présence de d'autres membres du groupe de soutien à la facilitation a été cette rencontre a été sanctionnée par un acte d'engagement ou encore des décisions qui ont été coulées? À ma connaissance, non. Voilà pourquoi aujourd'hui, je crois que à un certain niveau, certaines personnes soutiennent également la position de Dem Kodjo pour dire que ce qu'elle fait, c'est ce qu'ils se sont attendus à Bruxelles.
Écoutez, vous savez, le professeur, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup vraiment apprécié l'analyse, même l'orientation du professeur par rapport à la thématique, qui a expliqué le rôle du facilitateur. Le facilitateur ne fait que rapprocher, en fait, le point de vue. C'est lui qui va contacter le parti en présence pour un consensus, d'abord sur le plan même de la forme. Alors, parce que là, à l'étape où les choses se trouvent, on est juste en train d'abord de formaliser le préalable, afin de permettre que les dialogues qui doivent se dérouler ne puissent pas prendre assez de temps, parce que ce sont des choses qu'on devait élaguer, des petites choses qui pouvaient faire l'objet de blocages pendant le déroulement du dialogue, devaient être à élaguer avant même le début des travaux. Mais, de cette manière, vous allez comprendre un facilitateur de quel droit ça aurait-il de convoquer les travaux pendant que une partie, vous avez compris que d'abord, je sais qu'il y a fait un travail très très extraordinaire en rassemblant cette opposition qui était hostile, franchement, au dialogue. Et le travail que lui devait faire, qu'il n'a pas pu faire.
Une autre question de précision, Maurice. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller au dialogue sans Tshisekedi?
Ah, mais lui-même, vous avez entendu, lors de son premier point de presse, il a dit clairement
que sans que c'était, il n'y aura pas de dialogue. Il le sent, même l'opinion, vous voyez, par exemple, vous faites les interventions des auditeurs, sans que c'était, il n'y aura absolument rien, parce qu'ils ont tenté de solliciter concertation jusqu'à ce jour.
C'est votre point de vue, Maurice, le débat se poursuit, et nous signalons d'ailleurs que sur notre page Facebook, vous pouvez échanger avec autant des milliers de millions d'auditeurs qui débattent sur cette question relative à la tenue du dialogue dans les jours à venir, la CENCO qui plaide pour la tenue de ce dialogue d'ici la fin du mois d'août. Comme pour dire, il y a encore du temps, mais nous devons le faire avant la convocation de l'électorat qui constitutionnellement est prévu pour le mois de septembre. Mais de l'autre côté, il y a l'opposition, une frange de l'opposition qui récuse Edem Kodjo, facilitateur. Déjà là, nous tombons sous les coups de suspicion. On ne sait pas continuer par rapport à cette une façon de pouvoir changer de casaque. Est-ce qu'on peut dire que cela pourrait retarder les choses ou encore l'avenir de ces dialogues? C'est le débat est lancé. Vous pouvez aussi participer à ces débats en composant les 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont envoyé déjà leurs messages. Il y a Chico Bassa de Kadanga qui dit, vu maintenant la façon dont les choses se déroulent, je ne pense pas que ce dialogue peut nous apporter un bon résultat, bien que l'opposition et la majorité nous parlent de dialogue, mais chacun de ces partis bloque le dialogue de sa manière, malgré leurs déclarations. Quant à la déclaration de la CENCO, en raison d'améliorer bien les choses, cela est normal et nous soutenons la position de la CENCO. Samy et Divin Chimanga. Si Edem Kodjo ne parvient pas à convaincre toute l'opposition congolaise pour trouver un consensus sur les conditions et modes de déroulement d'un dialogue pacifique, qu'il sache que sa mission a échoué et il doit automatiquement regagner son pays dans un bref délai. Les voies de décampement dans la crise politique sont nombreuses. Junior Bopongo depuis Mbandaka, je crois que l'opposition, le vrai problème du dialogue national n'est ni la facilitation, ni les facilitateurs. Yves encore, merci de l'intérêt que vous accordez à ces débats. Nous allons nous retrouver avec vous dans un instant pour le dernier quart d'heure de cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous entamons donc, disais-je, le dernier quart d'heure de cette émission. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques à l'UNIKIN. Vous avez suivi quand même cette longue série des auditeurs, la passion y est, et également en fait des réflexions très pointues, donc, voulais-je dire. Mais alors, les orientations, parce que quand on attend que le dialogue peut s'éteindre nécessairement avec la présence des Tshisekedi, parce qu'il fait partie du problème, selon certains auditeurs, et d'autres qui disent que voilà, on n'a plus le temps, on est vraiment là, sur le point de violer la Constitution, parce qu'on ne va pas les respecter, il faut aller seulement à la transition. Alors, qu'est-ce que vous dites aux uns aux autres? Comment vous orientez la préoccupation?
Alors, là, j'avais déjà dit qu'au départ, les facilitateurs avaient fait une analyse, les acteurs, c'est les facilitateurs lui-même. Il avait annoncé que du côté de l'opposition, le répondant de l'opposition allait être Étienne Tshisekedi. Étant donné que selon l'analyse qu'il a faite, c'est lui qui, aujourd'hui au Parlement, est la deuxième force politique après le PPRD, mais qu'aussi, il parle des élections de 2011. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette analyse de Médata, il fait Étienne Tshisekedi un acteur important du dialogue politique. Ça, c'est la première chose. Faut-il le laisser de côté? Étant donné que lui-même en faisait un acteur important, il devient difficile dans ce cas-là de pouvoir le laisser de côté. Quand vous entrez, un autre auteur parle de prisonnier politique. Ça, c'est
parce que là, si on s'en tient à ses déclarations, parce qu'il a déjà fait par plusieurs fois de points de presse, évoquant cet élément.
Et d'ailleurs, il faut dire que pour l'opposition républicaine et nationaliste, l'un des problèmes, c'était que, mais écoutez, si eux ne sont pas d'accord, nous, on est d'accord de partir. Et donc, pourquoi se référer à lui? Il dit non, moi, je voudrais. Le dialogue n'aura pas de sens s'il va là. Et donc là, il y a déjà les paroles qu'il avait déjà sorties.
Et pour se compléter, quand Edène Kodjo avait proposé le premier format du commission préparatoire de 12-12 en 8, il disait les 12 de l'opposition, en tout cas toutes les parties devaient se présenter sous les labels de l'IDPS.
Voilà.
Donc l'IDPS qui devait conduire cette opposition.
D'accord, voilà. Mmh. Et donc tout cela découlait de son analyse du contexte et des acteurs politiques. Mmh. Et aujourd'hui, dans cette analyse, et surtout les déclarations qu'il avait déjà faites auparavant,
il sera difficile.
Il sera très difficile parce qu'on va dire, voilà ce que tu avais déjà dit au départ. Comment il va s'en sortir? Je crois que là, il y a à la fois la communauté internationale, il y a aussi l'Union africaine qui devront certainement trouver des solutions, sinon on est dans le passé.
Alors, il y a problème à quel niveau? Parce que nous avons vu, après la rencontre des Jeunes-Val, aussitôt, juste après, donc, le comité des sages, conduit par le Etienne Tshisekedi, aller à la rencontre du groupe de cités à la facilitation et avec le facilitateur pour dégager un compromis avant la convocation donc de ce comité préparatoire. Alors, qu'est-ce qui expliquerait cette rébuffade aujourd'hui? Parce qu'on a eu l'impression que tout allait, il y a eu déjà des avancées très significatives.
Il y a des petits faits. Des petits faits. Là, ces faits, c'est l'ordonnance signée par le chef de l'État. Cette ordonnance a visiblement énervé l'opposition. En fait, l'un des principes du dialogue, c'est que quand c'est un conflit armé, avant de dialoguer, il y a le cessez-le-feu qui doit être signé par les parties prenantes. On ne va pas dialoguer arme à la main. C'est ça le principe. Et pour un conflit, dans un contexte où il ne s'agit pas de belligérants, bien, on ne dialogue pas bâton à la main. Ça veut dire qu'il y a une sorte de détente politique, une sorte d'apaisement politique. Il faut qu'il y ait des mesures d'apaisement. Et parmi les mesures d'apaisement, les opposants proposés, l'opposition, parce qu'il n'y a pas que l'UDPS, évidemment. Aujourd'hui, les opposants qui sont en prison ne sont pas seulement de l'UDPS. Ils proposaient la libération des prisonniers politiques. Et il me semble bien qu'il s'agit là d'un point très important sur lequel les différents partis politiques de l'opposition insistaient.
Et dès lors que... Il y a déjà des signes d'accord, le chef de l'État
a signé... Il a signé une première ordonnance, et quand ils ont regardé le contenu de l'ordonnance, ils ont trouvé que ce n'était pas tant ce qu'ils attendaient. Alors, tout le problème, c'est de dire, et apparemment, quand vous écoutez Edom Kodo, il dit, on commence déjà à remplir certaines conditions, ça veut dire qu'il y a là une première ordonnance, et qu'il pourra y avoir d'autres ordonnances. Et donc, il ne sert peut-être pas à rien de monter les enchères maintenant parce que c'est en train de
faire des exigences, des négociations. On n'a pas tout à la fois. Peut-être qu'on a autant la main.
Il y a une première série, il y aura une deuxième, il y a une troisième. Il faut peut-être attendre, être patient et ne pas chercher à tout obtenir aujourd'hui. Je crois que c'est ça les discours qui n'est pas.
Alors, on va écouter les autres auditeurs qui nous ont rejoints et puis on reviendra à vous pour la conclusion. Professeur Félicien Kabamba, qui nous a honoré d'ailleurs aujourd'hui de sa présence dans ce studio, pour réfléchir ensemble avec vous, chers auditeurs. Antoine, vous êtes en Mozambique, vous avez rejoint, bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, précisément, où dans ce pays vous vous retrouvez, où exactement? Dans la capitale ou en province?
Non, je suis en province, je suis à au moins 480 km de la capitale, non plutôt.
Ok. Alors, vous avez suivi les débats tout à l'heure, les auditeurs qui ont eu à échanger de manière citoyenne dans cette émission. Quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Bien, concernant le sujet qui est en débat actuellement, je voudrais seulement dire que... quant à l'organisation des médiateurs par les membres, pas un problème, parce que si les opposants ils trouvent par leur compte, ils ont raison de pouvoir normalement reculer et la médiation de M. Donkodjo. Et pour moi, d'abord, quant à la théorie de ce dialogue, vous m'excuserez de vous le dire, mais moi, pour moi, j'ai une image, je me fais des idées bien petites. Parce que il faut se dire pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce point-là de se provoquer un dialogue. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce point-là? C'est-à-dire qu'au Congo, quand il faut qu'il y ait une alternance, il faut chaque fois qu'on convoque un dialogue. Et permettre. Je voudrais dire, oui, qu'est-ce que l'Union africaine a déjà normalement présider à une situation et à résoudre les problèmes qui en Afrique, mais qu'à son patron. Alors, par exemple, au Burundi.
Voilà, je crois qu'on a des petits problèmes avec la ligne d'Antoine depuis Mozambique, hein, avec ces décalages, aussi la distance. Je crois que nous ne serons pas à même de pouvoir vous garder longtemps à l'antenne. Nous allons prendre Étienne qui est à Kikwit. Et avec lui, on va terminer quand même cette ronde des auditeurs à travers le pays et à l'étranger. Étienne, vous êtes avec nous à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, chers très estimés compatriotes J.R. Lungemo. En fait, je interviens depuis Kikwit pour saluer l'intervention brillante du professeur Félicien Kabamba, que je connais bien, et que et sur toute la ligne, il a essayé d'étayer le problème dans sa profondeur la plus noble. Et ce que moi, je voulais tout simplement ajouter ici, que le facilitateur, en faisant cette déclaration hier, il a montré, il a confirmé à la face du monde, effectivement, qu'il n'est pas en train de revêtir la casquette d'un facilitateur. Parce que quand on vous appelle facilitateur pour faciliter l'entente entre deux frères adversaires politiques, il ne devait pas faire cette déclaration pour commencer à rappeler qu'il est l'émanation de l'Union africaine. Encore faut-il savoir, l'Union africaine qui lui a nommé, cette dame, madame Zuma, qui continue à revêtir le nom de M. Zuma, alors que, à notre information, nous savons qu'ils ne sont plus encore mariés et femmes, et que jusqu'à ce point, M. Étienne Kodjo est issu d'abord son avènement politique et qu'il est un ancien premier ministre d'un état dictatorial de M. Yadema et il a été réquisé au Burundi et que dès son arrivée, les opposants l'avaient directement réquisé. Mais c'est pour ne tout simplement ne pas envenimer la situation qu'on a voulu qu'il soit entouré par un panel de
participants. Oui, Étienne, nous vous le concédons, bien entendu, avec quelques réserves aussi. Nous venons de suivre tout à l'heure notre invité qui a évoqué des critères d'ailleurs de choix d'un facilitateur. Il y a entre autres la personnalité, l'expérience et puis la facilité de communiquer. Est-ce que vous estimez que Jem Kodjo ne répond pas à ces critères?
En tout cas, Étienne Kodjo, sur toute la ligne, ne répond pas à cela parce que l'Afrique a besoin des démocrates pour venir faciliter la démocratie dans certains pays. Il a fallu recourir à l'expertise du Sénégalais, peut-être Niass, ou peut-être du Malien, ou des autres Béninois qui ont jusqu'ici montré effectivement que l'alternance est possible en Afrique.
Merci. Merci beaucoup, on a plus assez de temps. On va conclure avec notre invité, Félicien Kabamba. Professeur, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques, donc à l'UNIKIN. Voilà, donc nous allons conclure quand même cette émission. Eden Kodjo, nous venons de suivre d'ailleurs, l'actualité a sensiblement évolué, et qui a en fait validé certains mandats de représentants de certains partis politiques pour les comités préparatoires. Déjà, les choses vont vite et les 29 ou les 30, si ma mémoire est très bonne, on va assister au démarrage effectif des travaux. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux uns et aux autres? De mettre le vin, un peu d'eau dans le vin, ou de dépassionner les débats?
Non, je crois que ce dialogue, nous l'attendons depuis longtemps. Et nous voulons qu'il soit un dialogue de tout le monde. Nous voulons également qu'il soit un dialogue qui trouve des solutions durables à la crise du Congolais. Mais ce n'est pas un dialogue de facilitateurs, c'est un dialogue des Congolais. Ce sont les Congolais qui aident les facilitateurs. Et parce que les Congolais aident les facilitateurs, ils doivent tout faire de sorte que la facilitation réussisse. Nous n'avons pas non plus, nous ne savons pas si notre dialogue va être un dialogue distributeur, ou va être un dialogue intégrateur. Le dialogue distributeur, c'est celui qui distribue les dates politiques. Et quand vous regardez la plupart de certains acteurs, ils veulent être là-dedans parce qu'ils savent que probablement au sortir du dialogue, il y aura un gâteau à distribuer. Donc ce genre de dialogue ne sera pas un dialogue pour le bien des Congolais. Nous avons besoin d'un dialogue qui vient pour poser, si vous voulez, le problème réel et trouver des solutions idoines.
Professeur Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques à l'UDIKIN, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait le déplacement de ce studio pour échanger de manière citoyenne avec les auditeurs qui ont accepté de contribuer dans cette émission. On se retrouve en tout cas très prochainement, toujours dans ce cadre des débats pour enrichir et travailler, en tout cas être au service de la nation. Je vous remercie.
Merci.
Voilà, nous disons également merci à vous tous qui avez participé à ce débat citoyen. Merci aussi à Paul Badeniam qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierre Namegi, qui est en même temps au standard de ce programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungenbo, Labou Angie, sous la supervision du matin. C'est vous, Javé. On se retrouve donc demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur vos tapis.